Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 3. Et ce matin, nous allons lire les versets 21 à 26. Romains, chapitre 3, les versets 21 à 26. Et voici donc la parole de Dieu. Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et jusque-là, la parole de Dieu. Imaginez un instant qu'on vous arrête, qu'on vous emmène au tribunal, qu'on vous présente devant le juge et que ce juge vous déclare coupable, que la condamnation, l'amende à laquelle il vous condamne s'élève à 100 millions d'euros. Là, vous réalisez que c'est impossible de payer. Et le juge vous dit que tant que vous n'avez pas payé cette amende, vous restez en prison. Le pire, c'est que le juge dit que ce n'est que le début. C'est ce que Paul est en train de faire, ou qu'est-ce qu'il vient de faire depuis le verset 18 du chapitre 1er. Il a décrit la condition perdue de tous les êtres humains. Tous sont coupables, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient non-juifs, qu'ils aient reçu les privilèges de la part de Dieu ou pas. L'homme est incapable de présenter quoi que ce soit devant Dieu qui puisse le rendre acceptable. Notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Elle n'atteint pas la perfection que Dieu exige. Il a terminé le passage que nous avons vu la dernière fois, les versets 19 et 20. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne. Et Paul a cité, nous l'avons vu la dernière fois, Paul a cité l'Ancien Testament pour dire que ce n'est pas seulement son idée, c'était vraiment toute la parole de Dieu qui ne cesse de le dire. Et l'Évangile commence ainsi. L'Évangile commence par nous amener à avoir la bouche fermée devant Dieu, à reconnaître que nous sommes coupables, à nous pousser dans ce coin où on n'a plus d'objection à présenter devant Dieu, où on est obligé de reconnaître que l'on est coupable, que l'on est sous sa condamnation qui est juste. Nous n'avons rien en nous-mêmes pour payer la dette, pour payer notre dette envers Dieu. Notre situation par nature est désespérée. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de crier à Dieu pour sa miséricorde. Et la bonne nouvelle, c'est que Paul va maintenant parler de cette miséricorde et de cette grâce de Dieu. Oui, l'homme est par nature sous le jugement de Dieu, mais il dit au verset 21, « Mais maintenant, mais maintenant, quel changement, quelle merveilleuse nouvelle !» Si nous ne sommes pas frappés par ce contraste, alors il faut relire à partir du verset 18 du chapitre 1. Pour vraiment se remettre dans l'idée, dans la tête, la description de ce qu'est l'homme par nature. Il est loin de Dieu, il est séparé de Dieu. C'est le besoin que du monde aujourd'hui, c'est le besoin même dans l'Église d'entendre ce que Paul a dit dans les passages précédents, et que tous les hommes soient amenés à ce point où leur bouche est fermée, que tous soient reconnus coupables devant Dieu. Et alors la bonne nouvelle éclate. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Et au verset 26, Paul précise que Dieu est juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est le message principal, c'est le cœur de l'évangile que nous avons ici. Et nous allons passer un peu plus de temps, on va avancer un peu plus lentement en considérant son passage. Il revient en fait sur la définition qu'il avait donnée au chapitre 1, versets 16 et 17, en parlant de cet évangile, que le salut est par la grâce seule, par Jésus-Christ seul, par la foi seule, parce que la justice de Dieu a été manifestée. Rappelez-vous ce passage, chapitre 1, versets 16 et 18, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et depuis le verset 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 3, Paul a voulu nous montrer pourquoi il était nécessaire que la justice de Dieu dans l'Évangile se manifeste. Parce que nous n'avons pas de justice nous-mêmes. Nous n'avons aucune justice qui puisse satisfaire aux exigences de Dieu. Il faut une justice parfaite. Et la seule justice qui soit parfaite est la justice de Dieu en Christ. Et elle est manifestée dans l'Évangile. Mais qu'est-ce que Paul veut dire quand il parle de la justice de Dieu? C'est une expression qu'il utilise souvent dans ses lettres, et il faut être clair là-dessus. Si on revient dans l'Ancien Testament, cette expression elle décrit cet attribut glorieux de Dieu, où Dieu est parfaitement vrai. Il est parfaitement en harmonie avec lui-même. Il est absolument juste. Il est absolument vrai dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait. Et dans le cadre de son alliance avec le peuple d'Israël, il s'est engagé dans sa miséricorde. Et dans sa justice, il est fidèle à chaque parole qu'il a donnée à son peuple. Parfois, dans l'Ancien Testament, cela veut dire que la justice de Dieu va s'exprimer dans la condamnation du péché. Mais Dieu a aussi promis d'être miséricordieux dans le cadre de son alliance. Et quand il garde son alliance, il va exprimer sa justice dans le salut de son peuple. Dieu est toujours vrai. Il est toujours fidèle à sa parole, que ce soit une parole de condamnation ou que ce soit une parole de salut. Et Paul nous dit ici que la gloire de l'Évangile, c'est que en Jésus-Christ, la justice de Dieu pour le salut a été révélée. Le Dieu juste, d'une manière juste, a révélé un moyen de pardonner les pécheurs, de prendre ceux qui étaient dans l'erreur, de ceux qui étaient loin dans leur péché, de ceux qui étaient coupables devant lui. Lui qui est le juge de tous, il a trouvé le moyen d'accomplir une chose remarquable sans diminuer, ou plutôt dire en démontrant sa justice absolue. Il a trouvé le moyen de déclarer juste ceux qui en eux-mêmes sont coupables et pécheurs. Et le moyen par lequel Dieu accomplit cela, c'est par la venue de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui a pris sur lui notre nature humaine, qui a habité parmi nous, qui s'est identifié aux pécheurs en allant se faire baptiser dans le Jourdain. Il a pris la place du pécheur. Il a été cloué sur la croix de Golgotha. Il a été condamné à la place de pécheur. Il a scellé notre pardon avec son sang. Et quand on comprend que par nature nous sommes pécheurs, nous sommes coupables, nous sommes condamnés, nous sommes sans espoir, et que Dieu, dans sa justice, le Père, avec le Fils et l'Esprit, a établi ce plan de salut merveilleux pour justifier les hommes et les pécheurs, un plan où le Fils de Dieu va prendre la place de pécheur, où Dieu va condamner son Fils à la place de pécheur, alors que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas de péché en lui-même, mais il a pris les péchés de ceux qui croient en lui, de son peuple, et où les pécheurs sont déclarés justes parce qu'ils sont unis par la foi en Jésus-Christ. Et là, on voit la merveille de ce plan, la merveille de cet évangile. Paul a pensé à cela, par exemple, quand il écrit dans, sa lettre, dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, qu'on a déjà cité, ce verset, verset 7 à 9, il écrit qu'il était en quête d'une justice, mais il la cherchait avec ses propres efforts. Il pensait avoir obtenu cette justice jusqu'au jour où il réalise qu'en réalité, c'est son cœur qui est pécheur. Et Dieu, dans sa grâce, lui montre qu'il a pourvu une justice en Christ. Et quand Paul a cru, quand Paul a été uni au Seigneur Jésus-Christ par la foi, la justice de Christ est devenue la sienne. Paul peut se tenir devant Dieu sans crainte, avec la même confiance que le Seigneur Jésus-Christ s'est tenu devant le Père. Parce que Paul, maintenant, est revêtu de la justice de Christ, tout comme chaque croyant qui est uni à Christ. Philippiens 3, versets 7 à 9. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, tout sont le fait qu'il soit né, dans le peuple juif, qu'il a été éduqué dans les meilleures écoles. » Et il dit cela, mais ces choses-là que je considérais comme étant un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. C'est un langage politiquement correct. Le terme est beaucoup plus fort. Mais je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et c'est ce qui explose maintenant dans ce passage, en Romains chapitre 3. Mais maintenant, comme Paul le dira plus tard dans ce passage, Paul pense au jour de l'Ancien Testament où tout cela était voilé, tout cela était caché, mais maintenant c'est clair, c'est révélé, afin que tous viennent, que ce soit des Juifs ou des non-Juifs, parce que Dieu a pourvu une justice pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et Paul dit quatre choses dans les deux premiers versets de notre passage. Tout d'abord, cette justice de Dieu nous est offerte sans la loi. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Cela veut dire que si quelqu'un souhaite avoir cette justice, avoir ce statut d'être justifié devant Dieu, d'être déclaré non coupable devant Dieu, d'être délivré de notre culpabilité. Paul nous dit que cette justice peut être la nôtre sans la loi. C'est-à-dire que cette justice nous est offerte loin de toute œuvre que nous pourrions faire pour la mériter. C'est important de le souligner. Beaucoup de personnes pensent que Dieu les aime, qu'il va les sauver à cause de ce qu'ils sont ou à cause de ce qu'ils ont fait. Il suffit d'aller en ville de poser la question, pourquoi Dieu va-t-il vous accepter? Et si une personne a une certaine croyance en Dieu, la personne va dire, c'est à cause de ce que je suis ou à cause de ce que j'ai fait. Je suis aussi bon que la plupart des personnes. Je suis sans doute meilleur que certains. Mais je ne suis certainement pas mauvais. Je n'ai pas commis de péché grave. Mais ça, c'est la route vers la condamnation. Se tenir sur ses propres mérites, sur sa propre justice, qui est imparfaite, c'est la route vers la condamnation. On ne peut recevoir l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ que comme un don qui ne se mérite pas. Paul va le souligner dans les versets suivants. C'est un don de Dieu qui n'est pas obtenu par les œuvres. Même en tant que chrétien, nous devons nous rappeler cela sans arrêt. C'est très facile de tomber dans le piège de penser que Dieu nous accepte à cause du genre de chrétien que nous sommes, à cause de la qualité de notre vie de prière ou du rôle que l'on occupe dans l'Église ou des sacrifices que nous faisons ou des dons que nous faisons. Mais ça, c'est renier l'Évangile. C'est s'appuyer encore une fois sur notre propre justice. Le jour où je crois que Dieu m'accepte à cause de mon progrès dans la foi, c'est le jour où je détruis l'Évangile. Cette justice nous est offerte sans la loi, sans nos mérites, sans nos œuvres d'obéissance, mais aussi sans la loi de Moïse, sans la loi de l'Ancien Testament. La justice ne nous est pas donnée, la justice de Dieu ne nous est pas donnée parce que nous avons obéi à la loi de Moïse, parce que nous avons été circoncis ou parce que nous avons été baptisés ou parce que nous avons participé à la scène. Non, cette justice ne nous est pas donnée parce que nous avons obéi à la loi, parce que nous avons offert le bon sacrifice, parce que nous avons respecté les jours de fête. Non, ces choses-là ne sauvent pas. La gloire de l'Évangile, c'est ce qui fait que c'est pour tous. C'est que cette justice de Dieu nous est donnée sans la loi. Et parce que le Seigneur Jésus-Christ prêchait ce message, il a rencontré l'opposition. De même qu'Étienne, parce qu'il prêchait cela, il a été lapidé. Et l'apôtre Paul lui-même, qui annonçait ces vérités, a lui aussi connu l'opposition. La justice de Dieu nous est donnée de façon très claire. Sans la loi, que ce soit la loi de l'Ancien Testament ou que ce soit nos œuvres d'obéissance. Non, cette justice nous est donnée sans la loi. Une des choses les plus dangereuses que l'on puisse faire, c'est de chercher à faire passer nos œuvres comme la base de notre salut. Non, cette justice de Dieu nous est donnée sans la loi. Mais remarquez tout de suite la deuxième chose que Paul dit. C'est que la loi et les prophètes rendent témoignage à cette justice. La justice de Dieu est à moi sans la loi. Mais ce moyen par lequel Dieu me donne la justice est un moyen qui a été annoncé dans tout l'Ancien Testament. Et Paul va reprendre un thème qu'il a déjà abordé au début de sa lettre quand il a parlé de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Romains 1, verset 2. Et Paul a décrit le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'accomplissement de ces Écritures. Il reprend cela ici en parlant de la manière dont Dieu nous justifie sans la loi mais qui est en accord avec la loi, avec les prophètes. La loi et les prophètes rendent témoignage au Seigneur Jésus-Christ, mais ni la loi et ni les prophètes ne peuvent apporter le salut. Ils ne peuvent pas sauver. Quand on saisit cela, on comprend mieux l'Ancien Testament. Vous vous rappelez que c'est la première chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait le jour de sa résurrection, sur la route d'Emmaüs. Il a marché avec ses deux hommes sur le chemin. Ces hommes ne l'ont pas reconnu. Ils étaient découragés. Et le Seigneur Jésus va leur demander pourquoi. Et eux, ils sont étonnés. Ils se disent, mais où est-ce que tu as été tous ces derniers jours? Voilà, celui qui était annoncé comme le Messie, il vient d'être crucifié. Et maintenant, on ne sait pas trop quoi penser parce qu'il y a certaines femmes qui ont dit qu'ils ont vu le tombeau qui était vide, que des anges leur ont apparu. Et tout cela, c'est, on a notre esprit qui est embrouillé. Et que fait le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, mais vous vous rappelez de Genèse 3, verset 15, où Dieu promet à Adam et Ève la venue d'un sauveur qui va remporter la victoire, mais en remportant la victoire, son talon sera écrasé. Rappelez-vous de Ésaïe 53, qui parle du serviteur qui souffre. Rappelez-vous du psaume 22, qui commence avec des souffrances, mais ces souffrances ensuite précèdent l'exaltation dans la gloire. Il va prendre tout l'Ancien Testament, Moïse, les prophètes. Et les hommes ont commencé à comprendre, même s'ils n'avaient pas... Ils n'ont pas encore saisi qui était celui qui leur parlait. Et jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va rompre le pain. Et là, ils comprennent. C'était lui. Jésus leur a appris que si on s'arrête avec l'Ancien Testament, on s'arrête rempli de frustration, rempli de désespoir. C'est comme si on voyait un panneau indicateur qui indique une direction et qu'on s'arrête au panneau indicateur. On n'arrivera jamais à la direction qui est indiquée. Et combien de personnes s'arrêtent à l'Ancien Testament? Que ce soit quand on considère Jérusalem, considère le temple ou la terre. Non, mais l'Ancien Testament n'existe pas pour lui-même. L'Ancien Testament ne se tient pas seul, il indique un chemin, il indique une direction, il rend témoignage à Jésus-Christ. Il annonce la venue du Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul qui apporte le pardon, qui apporte le réconfort, qui apporte le salut. Il est le seul, il est celui, le Sauveur qui a été promis depuis le Jardin d'Éden. Et maintenant, Paul dit, il a tout accompli. La justice de Dieu qui vient sans la loi est la justice à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Tout l'Ancien Testament parle et annonce cette justice que Dieu donne. Et parce que cela est vrai, Paul nous dit une troisième chose au verset 22. Que cette justice est reçue par la foi. Et là, c'est quelque chose de remarquable. Il dit que cette justice de Dieu est manifestée sans la loi, que la loi et les prophètes rendent témoignage à cette justice, et que cette justice de Dieu est à moi par la foi en Jésus-Christ. Mais maintenant, au début du verset 21, ce n'est pas seulement un « maintenant » qui sert dans l'argumentation de l'apôtre Paul, dans le raisonnement logique. C'est aussi le « maintenant » dans l'histoire. Le Seigneur Jésus-Christ, qui a été annoncé par la loi, par les prophètes, il est venu. Il est venu, il a accompli ce qui avait été promis. Maintenant. Et Paul va développer cela dans les passages qui suivent. Mais ici, ce qu'il veut souligner, c'est que si nous voulons être dans une bonne relation avec Dieu, si nous voulons nous tenir devant Dieu, justifié en sachant qu'il nous accepte. La seule manière, c'est de recevoir cette justice de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Parce que ce n'est qu'en Jésus-Christ que cette justice a été pourvue, a été donnée. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est cette main vide qui se saisit du Seigneur Jésus-Christ. Par nature, nous avons les mains fermées, nous avons les poings serrés. Ah, nous allons le faire nous-mêmes. Nous allons essayer. Nous sommes des gens bien et nous allons, par nos efforts, essayer d'y arriver. Et bien sûr, c'est impossible. Mais Dieu, dans sa grâce, quand il commence une œuvre, il ouvre nos mains et nous réalisons que, en fait, il n'y a rien dans nos mains. Il n'y a rien que nous puissions offrir à Dieu. La foi, c'est se saisir de Jésus-Christ. C'est de voir le Seigneur Jésus-Christ élevé sur la croix à notre place. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire en Jean chapitre 3. Il prend cet événement de l'Ancien Testament, Jean 3, 14 et 15. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Moïse avait, sur l'ordre de Dieu, fabriqué ce serpent d'airain, et il l'avait élevé, et tous ceux qui regardaient vers ce serpent d'airain étaient guéris. De la même manière, il faut que le Fils de Dieu soit élevé, afin que quiconque croit en lui, quiconque se saisit de lui, ait la vie éternelle. C'est aussi simple. Parfois, il faut un chemin long et compliqué pour arriver à ce point où l'on réalise qu'on ne peut rien apporter, mais que Dieu nous accorde tout en Christ. Il y a plusieurs cantiques qui parlent de ça. Je citerai seulement le cantique 241 dans la troisième strophe qui dit « Seigneur, je n'apporte rien. Ta croix seule est mon soutien. Je viens à toi sans ressources, souillé. Je viens à la source ouverte pour les pécheurs. Ah, rends-moi pur ou je meurs. » C'est une adaptation par Ruben Sayens d'un cantique en anglais qui s'appelle « Rock of Ages ». Et la troisième strophe est tout petit peu différente parce qu'il parle de... Il dit ceci, « Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. » Il se saisit, du Seigneur Jésus-Christ. « Naked, come to thee for dress. Helpless, look to thee for grace. Foul, I to the fountain fly. Wash me, Savior, or I die. » Et voilà. La foi se saisit de Christ. La foi est cette main vide qui réalise qu'on ne peut rien apporter pour notre salut. Elle vient se saisir de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Et Paul ne dit pas seulement que l'on reçoit cette justice par la foi, mais qu'elle est pour tous ceux qui croient. Alors, est-ce que c'est... Cette deuxième partie de la phrase est une répétition inutile. Est-ce que c'est un pléonasme, comme on peut parfois dire « je sors dehors » ou « je monte en haut » Est-ce que Paul se répète inutilement? Non. Quand Paul se répète, il y a toujours une raison. Paul vient de dire que le salut est par la foi. Et il précise qu'il est pour tous ceux qui croient. C'est notre quatrième point. Cette justice est pour tous ceux qui croient. On commence à voir la force de l'argumentation de Paul. Il y a eu dans l'histoire un temps où Dieu avait choisi un peuple qui n'était pas nombreux. Il a gardé ce peuple parce qu'il lui avait confié la vérité qu'un sauveur allait venir, que le Seigneur Jésus-Christ, le sauveur du monde, allait venir. Mais maintenant, que le Seigneur est venu. Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ a tout accompli, que cette justice nous est offerte sans la loi, que cette justice est reçue par la foi. Elle est accessible à tous ceux qui croient, qu'ils soient juifs ou non juifs, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient sages ou simples d'esprit, qu'ils soient âgés ou plus jeunes. Cette justice est offerte à tous ceux qui croient, sans distinction. Qui que l'on soit, il n'y a qu'un seul accès auprès de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et tous doivent prendre cet accès, parce que Paul le dira au verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et pour avoir accès auprès de Dieu, tous doivent prendre le seul accès que Dieu a donné, par la foi en Jésus-Christ. La tragédie de nos vies, ce n'est pas seulement que l'on se soit rebellé contre Dieu, ce n'est pas seulement que l'on ait méprisé sa loi, non, la tragédie, c'est que l'on ait perdu notre destinée, c'est que l'on soit privé de la gloire de Dieu. Dieu nous a créés pour refléter sa gloire, pour jouir de cette gloire et pour un jour habiter cette gloire. Le catéchisme de Westminster commence ainsi. Il dit « Quelle est la principale fin de l'homme ? C'est de glorifier Dieu et de jouir de lui éternellement. » Pour beaucoup de personnes, ces deux choses sont contradictoires. Soit on glorifie Dieu, soit on passe un bon moment de jouissance. Un non-chrétien ne peut pas faire les deux. C'est pour ça que Paul dit qu'il faut venir à Christ. Qu'il faut venir à Christ par la foi, avec les mains vides. Et là, on va découvrir que le Seigneur Jésus-Christ nous prend par sa main, par la main, qu'il commence en nous la restauration de la gloire de Dieu. Et on découvre que finalement, on prend plaisir d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. On prend plaisir dans sa parole. On se réjouit de l'Évangile. On se réjouit de la communion avec des frères et sœurs. On se réjouit de chanter des cantiques à sa gloire. On se réjouit de vivre une nouvelle vie pour lui. Tout cela devient la plus grande joie pour le chrétien. Le non-chrétien désespère de connaître une joie qui soit durable, réelle, mais il ne la trouve pas. Le Seigneur Jésus-Christ est la joie du croyant, parce qu'en lui, il a tout. Cette justice est donnée à tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, quel qu'il soit. Voilà l'explosion de l'apôtre Paul. Voilà le cri de joie de l'apôtre Paul. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un « mais maintenant » dans notre vie? Est-ce que nous pouvons dire « j'étais perdu, mais maintenant, Dieu m'a trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. J'étais dans les ténèbres, mais maintenant, je peux me tenir devant Dieu avec la justice de Jésus-Christ. » C'est une grâce, c'est une faveur merveilleuse que d'être un véritable chrétien, d'être réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ. À Dieu seul soit la gloire et qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Amen.